Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci. Prenez place dans la présence de Dieu. Je vais m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue dans la maison de ton Père. Alléluia. Et nous saluons toutes les personnes qui nous suivent également en direct sur les réseaux sociaux. Bénissons le Seigneur pour sa grâce. Depuis mardi, nous avons entamé notre série d'enseignements sur la famille selon le cœur de Dieu. Nous allons prendre Genèse chapitre 1er. Genèse, le chapitre 1er. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Nous sommes dans Genèse 2. Genèse chapitre 2, le verset 21 au verset 25. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. La régie est en retard. Le verset 22. Et l'Éternel Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois ce qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Amen. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, verset 4 au verset 6. Et il répondit, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Amen. Hébreux chapitre 12, Hébreux 13, pardon, le verset 4. La Bible dit, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Père, nous voulons écouter ta parole. Je demande que tu puisses utiliser comme un simple canal. Je demande, Seigneur, que ma personne se fasse et que tu puisses parler à nos cœurs, te révéler, te manifester. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et je demande ton onction, ton inspiration, que ta parole atteigne tes buts et tes objectifs et que tu touches un grand nombre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le mariage selon le modèle de Dieu, ou encore le modèle du mariage selon Dieu. Le mardi, nous avons parlé du modèle de l'homme selon Dieu. Vendredi, on a vu le modèle de la femme selon Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons parler du modèle du mariage selon Dieu. Amen. Alors, c'est quoi le mariage par définition? La définition du dictionnaire définit le mariage comme une union conjugale, rituelle et contractuelle à durée illimitée et indéterminée, qui est reconnue et encadrée par une institution juridique ou encore religieuse. Donc une union conjugale et rituelle et contractuelle, que les gens vont contracter ensemble, à durée illimitée. C'est-à-dire il n'y a pas de temps, de limite par rapport à cela. Et indéterminée, reconnue dans le cadre, par le cadre d'une institution juridique. Et une deuxième définition du terme mariage, toujours selon le dictionnaire, c'est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dans les conditions, dans certaines conditions, et les effets de cette condition sont régis par un code civil. Je veux m'expliquer. Amen. Ça, c'est la définition du monde, conception que le monde a concernant le mariage. Mais nous, nous voulons voir la conception ou la pensée de Dieu selon le mariage, puisque nous parlons du modèle de mariage selon Dieu. Et bibliquement parlant, le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est une institution divine et non un contrat. Car un contrat peut se rompre, mais pas une institution divine. Si aujourd'hui beaucoup de personnes facilement peuvent divorcer, c'est parce qu'il y a une notion de contrat. Lorsqu'ils contractent ou ils vont s'unir, s'attacher à un homme ou une femme dans le cadre du mariage. Dans la pensée de Dieu, le mariage n'est pas un contrat, mais c'est une institution divine, c'est une alliance. Amen. Deuxième définition qu'on peut donner, le mariage est une alliance qui est institué par Dieu lui-même au commencement. Donc, à la Genèse, au commencement, Dieu lui-même institue le mariage. Et cette alliance est contractée entre un homme et une femme. On a vu que Dieu a d'abord créé l'homme. Ensuite, il a créé la femme. Dieu n'a pas créé deux hommes. Dieu n'a pas créé deux femmes pour se mettre ensemble. Et aujourd'hui, il y a certaines lois dans nos sociétés qui veulent nous pousser à accepter et voire même les églises les contraindre à pouvoir bénir et célébrer le mariage entre deux personnes du même sexe. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Deux sexes différents, féminin et masculin, l'homme et la femme, ils se mettent ensemble pour fonder une famille. On se marie pour fonder une famille. Il n'y a pas de famille lorsqu'il y a deux papas. Il n'y a pas de famille lorsqu'il y a deux mamans. Mais il y a une famille lorsqu'il y a un homme et une femme qui se mettent ensemble. C'est alors qu'on peut parler de famille. Alléluia. Et je demande aux chrétiens, à l'église, de se lever et d'afficher sa position sans avoir peur que l'homosexualité est une abomination aux yeux de Dieu et cela ne plaît pas à Dieu. Et aujourd'hui, les gens, même les chrétiens, nous avons peur d'affirmer notre position. Nous voulons nous laisser imposer par les lois occultes, des lois qui renversent les fondements de la parole de Dieu sous couvert de la liberté. Quelle liberté qui conduit au désordre? Quelle liberté qui conduit à l'abomination? Quelle liberté qui conduit à n'importe quoi? Alléluia. Donc le mariage, c'est comme un accord, une alliance où l'homme et la femme se complètent pour accomplir la volonté de Dieu, atteindre le but de Dieu. Alors pour les célibataires, vous devez savoir que le plan de Dieu, c'est que même si nous attendons le ciel, mais tu peux vivre ton paradis sur terre dans le cadre du mariage. En réalité, le mariage doit être le cadre dans lequel le paradis de Dieu doit se manifester. Il n'y a pas d'amen. Alors, je ne sais pas si les hommes ici et les femmes ici vivent vraiment le paradis. Ou bien ils font semblant. Quand ils rentrent à la maison, c'est la guéguerre. Alléluia. Dis à ton ami, tu as besoin du paradis. Est-ce que tu peux m'aider à lui dire, tu as besoin du paradis? Amen. Le mariage fait partie du plan parfait de Dieu. Le plan parfait de Dieu pour l'homme, c'est qu'ils se mettent en union avec son épouse et qu'ensemble, qu'ils puissent jouir du bonheur et des bénédictions que Dieu leur a réservées. Il y a des bénédictions que Dieu a réservées uniquement pour le marié. Tant que tu seras célibataire, il y a des choses que tu ne peux jamais vivre, expérimenter. Tout simplement parce que Dieu les a réservées uniquement pour le cadre du mariage. Alors notez ceci. Des choses que le mariage n'est pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Surtout dans les jeunes. Avec la société aujourd'hui qui essaie de pouvoir, qui essaie de fausser l'image biblique du mariage. Le mariage n'est pas d'abord une convention sociale ou un ensemble des règles, de conduites qu'on adopte dans un groupe social pour le bien-être. Ce n'est pas d'abord ça. Ça, c'est une pensée erronée. Deuxièmement, le mariage n'est pas un arrangement qui va vous permettre juste de vivre ensemble. Ou encore le concubinage. Il y en a qui vont se marier pour avoir des papiers. Ça, ce n'est pas le mariage. Beaucoup d'Africains ont épousé des Européennes, ont épousé, ou même les Africaines qui ont épousé des Européens ou des Antillais, juste pour avoir les papiers. Et après, on crée une situation pour dire, voilà, pour briser. Même si tu as épousé pour les papiers, tu dois rester dans ce mariage-là. Donc n'écoutez pas les conseils des gens. Tu vois, tu comprends, ici c'est la France, c'est compliqué, hein? Les papiers c'est compliqué. Donc tu peux épouser même ta petite sœur. Et il y a des gens comme ça qui sont là, qui ont épousé juste pour avoir les papiers. Ce n'est pas ça le mariage. Et après les papiers, regarde ton voisin, et après les papiers, tu as quoi? Et on brise le cœur de beaucoup de sœurs. Et les sœurs aussi brisent le cœur de beaucoup d'hommes. Tu étais au bled là-bas. Un homme, tu l'as rencontré. Juste par Facebook. Oh chérie, je t'aime, je t'aime. Parce que ton but, c'est de venir en Europe. Et de venir, une fois que tu es ici, tu fais ta vie maintenant. Ce n'est pas ça le mariage. Et beaucoup de gens souffrent de ça. Alléluia. Le mariage, ce n'est pas non plus le pax. Vous connaissez le pax, non? Le pacte de solidarité, pacte civil de solidarité. Ce n'est pas ça. Dans Genèse 2, 24 que nous avons lu, nous voyons la définition de Dieu lui-même. Genèse, c'est le livre de commencement. C'est l'origine de toutes choses. C'est là que Dieu inscrit son plan parfait. C'est là que Dieu nous révèle sa volonté parfaite. On nous parle ici du couple. D'accord? Je vais relire. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Donc nous voyons ici une union qui est hétérosexuelle, pas homosexuelle. Tout le monde m'entend? Hétérosexuelle. Donc si tu es là, tu es un homme, tu es attiré par les hommes, il faut qu'on prie pour toi. Ce n'est pas normal. Comment un homme peut être attiré par les biceps d'un autre homme? Les biceps, biceps, biceps. Tu es attiré. Oh! Mais on doit t'imposer les mains. Comment toi, une femme, peut être avec tous les hommes qu'il y a là, tu ne les vois pas? Ça, c'est seulement la femme. Oh! Et la société veut nous faire comprendre que c'est normal. Ils sont nés comme ça. C'est les sentiments. Alléluia. Dis avec moi le mariage. Qui veut se marier? Qui c'est? Qui n'est pas encore marié qui veut se marier? Ah, même si là j'ai avancé. Qui t'a dit que c'est trop tard? Qui n'est pas marié, qui veut se marier? Levez la main. En levant la main, Dieu t'amène déjà ton mari ou ta femme. Qui est déjà marié ici? Ah, lui, il est marié ou pas? On ne sait pas encore. Il est entre les deux. Il est en voie. Amen. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Il n'y a pas la polygamie. Il n'y a pas la polyandrie. Toi, tu es frère, tu as demandé la main à toi, sœur, parce que tu attends lesquelles vont marcher. Ça, ce n'est pas une... C'est une mauvaise base. Je vais chez Antoinette, je vais chez Elisabeth et je vais chez Odile. Il y a Elisabeth ici? Pardon. Si c'est le nom de quelqu'un, pardon. Alléluia. Comment? Il y a des frères comme ça qui jouent... comment on appelle ça? Alléluia. Ça, ce n'est pas le mariage. Alors, vous allez noter trois mots qui sont notés ici dans Genèse chapitre 2, verset 24. On nous dit, l'homme quittera son père et sa mère. Le mariage commence par le fait de quitter. Quitter. Dans l'hébreu, le mot quitter, c'est azab. A-Z-A-B. Azab. Qui veut dire laisser derrière. Rendre libre. Laisser aller. Libérer. Donc, dans le mariage, quand un homme se marie, il doit quitter sa famille. Le lien qui le liait à sa maman, à son papa, doit être coupé. Car il y a des gens qui sont mariés, mais qui vivent comme s'ils dépendaient encore de leurs parents. Ou les beaux-parents, ou les parents carrément, contrôlent à distance la famille. Ce n'est pas ça le mariage. Quand on se marie, première des choses, on doit quitter. Dis avec moi, je dois quitter. Quitter l'autorité parentale. Quitter, se détacher. Le cordon ombilical doit être coupé. Et là maintenant, on peut parler du mariage. Deuxièmement, il quittera son père et sa mère et ensuite s'attachera à sa femme. Le verbe attacher, s'attacher, dabak, en hébreu dabak, D-A-B-A-Q, dabak. Dabak veut dire s'accrocher. Il va s'accrocher à sa femme. Il va se coller à sa femme. Donc le mariage, c'est une colle. Tu te colles avec plus que la glu 3. Coller, serrer. Alléluia. S'unir étroitement. Être joint. S'attacher, c'est se joindre. Rester ensemble. Rester collé. Rester uni. Attaché. Rien ne doit séparer cela. Donc, quand tu rentres dans le mariage, frère, tu dois savoir que tu rentres dans une prison. Ma soeur, tu dois comprendre que tu rentres dans une prison. Qui s'appelle mariage. Quand tu avais l'habitude de rentrer à n'importe quelle heure, personne ne t'est demandé de compte, à 19h, des gens t'appellent, tu es où? Ah, mais non, mais c'est ma vie. Je fais, non, ce n'est plus ta vie. Tu es collé à quelqu'un. Il y a des gens comme ça, des frères, des sœurs, qui ne veulent pas que leur mari les contrôle. Mais c'est normal. Il ne fallait pas te marier. Est-ce que je peux parler? Il ne faut pas te marier dans ce cas. Je sors quand je veux, je rentre quand je veux, je mange quand je veux, je dors quand je veux. Tu es désordonné. Quand tu rentres dans le mariage, l'ordre rentre dans ta vie. Et quand l'ordre rentre, on a le droit de te demander où est-ce que tu es. Tu es collé à quelqu'un. Serré, serré. Mais elle, elle me colle trop. Mais c'est normal qu'elle te colle trop. C'est ta femme. Lui, elle me colle trop. C'est normal. Parce que le mariage, c'est une colle. Ça vous colle. Ça vous attache. Ça vous unit. Vous allez voir aujourd'hui, il y a des gens qui veulent être dans le mariage, mais en même temps être libres. Quand maintenant, l'homme ou la femme essaie d'exercer une influence, une autorité, dans le sens de contrôler, de pouvoir savoir un certain nombre de choses, ça amène la frustration et ça conduit au divorce. Voilà pourquoi beaucoup de gens divorcent aujourd'hui, parce qu'ils veulent en même temps être dans le mariage, en même temps vivre une vie de célibataire. Lorsque tu acceptes le mariage, la vie de célibataire devient une vie passée.
Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Si quelqu'un est dans le mariage, elle est devenue une nouvelle personne. La liberté du célibat est passée. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu dois apprendre maintenant à vivre avec une nouvelle personne. Des fois avec des caractères différents. Moi, chez moi, on ne me faisait pas comme ça. Tu n'es pas chez tes parents. Ma mère, j'aime bien quand elle est préparée là. Ta femme n'est pas ta maman. Mon papa, vraiment, ton mari n'est pas ton papa. Quelqu'un peut me dire un bon amen? Ah, j'ai l'impression que c'est chaud. Hein? Dis à ton ami, s'attacher, être collé. Il y a des gens qui ne veulent plus de ça aujourd'hui. Le mariage est un lien. Aussi bien, il y a des liens qu'il faut couper. Mais il y a des liens qu'on ne coupe pas. Quand tu rentres dans le mariage, tu es lié. C'est des liens spirituels et physiques qu'on ne doit pas couper. Donc quand tu coupes tes liens dans la prière, ne coupe pas ce lien-là. Attends, je coupe. Et le lien du mariage, non, tu commets une erreur. Ne coupe pas. Ça, c'est un lien qui doit durer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une personne qui aime bien couper, il faut, je prends l'épée, je taille. Qu'est-ce que tu tailles? Tu tailles quoi? On ne taille pas les démons. Les démons, on les chasse. Et je taille, je brûle les cheveux, je brûle, je fais boire de l'eau, je fais boire du sang de Jésus. Et les démons n'ont pas un ventre pour boire le sang de Jésus. Tu prends autorité, tu le chasses au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Est-ce que je peux aider quelqu'un? S'attacher a aussi le sens de faire grandir ou de grandir en amour et en amitié. Lorsque tu t'attaches à ton mari, tu t'attaches à ta femme, vous devez devenir des amis. Lorsque tu te maries, tu dois comprendre que ton premier ami doit être ton mari. Ta première amie doit être ta femme. Il y a des choses auxquelles tu caches à ta femme, mais tous tes amis sont au courant. Des projets que ta femme ne connaît pas, mais tout le monde dans ta famille sait les projets que tu veux faire. Et voilà pourquoi les problèmes arrivent dans le couple. C'est tout à fait normal qu'elle revendique. C'est tout à fait normal qu'il revendique. Pourquoi? Parce que tu es en train de violer une institution divine, un lien qui est sacré, qui est le mariage. Alléluia. Alléluia. Il faut s'attacher. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, le cep doit demeurer attaché, n'est-ce pas? Le sarment doit demeurer attaché au cep pour porter beaucoup de fruits. Si tu ne restes pas attaché, tu ne peux pas porter beaucoup de fruits. Et c'est de la même chose. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous attacher à nos femmes, nous attacher à nos maris pour que nous puissions porter du fruit, pour que nous puissions vivre le bonheur selon Dieu. Autrement dit, ça sera compliqué. Alléluia. S'attacher. Et moi, je vois dans les mariages, quand vous allez dans les fêtes de mariage ou dans les cérémonies de bénédiction nuptiale, vous allez dans, avoir même à la mairie, les époux se jurent fidélité, n'est-ce pas? Je t'aimerai dans le bonheur, tout comme dans le malheur. En réalité, c'est faux. Il dit je t'aimerai, mais dans le bonheur. Quand le malheur commence à arriver, moi je divorce. Comment est-ce que le mot divorcer devient aussi facile pour même les enfants de Dieu? Il y a un problème. Quand tu es marié, ne pense même pas au divorce. Quelqu'un m'a dit, mais oui, et si ça ne marche pas? Dans ce cas, ne t'engage pas. Quand tu es engagé, ne pense même pas au divorce. Et si ça ne marche pas? Lorsqu'on est attaché, on ne peut pas penser à la séparation. C'est pour ça dans le texte de Matthieu que nous avons lu, Jésus a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni. Personne, dans ce personne, toi y compris. Que personne, toi-même, tu n'as pas le droit de séparer ce que Dieu a uni. Une fois que tu as dit oui à cette femme, une fois que tu as dit oui à cet homme, c'est jusqu'à la mort. Et ne commence pas à prier qu'il meure avant. Si quelqu'un dit ça, je prie même que Dieu l'enlève. Comme ça, je vais être libre. Tu deviens sorcier, un sorcier chrétien. Alléluia. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Touche ton voisin, dis-lui jusqu'à la mort. Dis-lui, alors, si tu es assis à côté de ton mari ou ta femme, dis-lui jusqu'à la mort. Oh, jusqu'à la mort. Alléluia. Jusqu'à la mort. Même si tu es ici, tu es contre mon ministère, tu fais des imprécations. Je peux déjà te dire, c'est nul et sans effet. Parce que lorsque j'ai scellé cette alliance avec elle, j'ai même pris une sainte scène. C'est-à-dire, c'est scellé dans les cieux devant les anges. Quand les démons voient notre couple, ils voient le feu. Scellé, hein, collé. Je suis collé à toi plus que la glu 3. Collé. Ton pied, mon pied. Alléluia. Quand je prie que Dieu nous donne les moyens, comme ça tu vas arrêter le travail. Mes voyages, tu pars avec moi. Alléluia. Il y a des gens qui aiment être toujours seuls. Il y a un problème. Ta femme, oh non, non, elle est occupée. Oh, elle doit être à tes côtés. On a vu la femme a été créée non pour être derrière, ni devant. Devant, c'est les femmes qui conduisent, qui contrôlent. Oh, moi j'aime contrôler. Moi j'aime. Non, 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 non. Tu n'es pas appelé à être devant. Tu n'es pas appelé à être derrière. Non, ici dans notre culture en Afrique, les femmes sont dans la cuisine. Non. La femme, c'est à côté, côte à côte. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Je suis venu dire aux femmes, vous êtes les côtes de quelqu'un. Vous êtes importantes. Vous êtes. Tout homme qui n'est pas marié est penché comme ça. Parce qu'il lui manque une côte. Donc Landry que vous voyez, il est comme ça. Il a besoin que la côte vienne au nom de Jésus. Lui, je veux le marier par la force. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Bon, s'il vous plaît, les soeurs, n'allez pas venir autour de lui. Hein. Demandez le numéro de téléphone. C'est à l'homme d'aller vers la femme. Et pas la femme. Oh, tu prends mon numéro et tu commences à harceler le mari. Tu harcèles. Ça devient de l'harcèlement. Ma soeur, tu n'harcèles pas le frère. Tous les jours, tu l'appelles. Tous les jours, tu l'importunes. Non, c'est pas comme ça. On ne va pas t'épouser par la force. Et toi aussi, frère, n'épouse pas une femme par la prophétie. Dieu m'a montré au robot Réma. Je voyais une robe blanche. Non! Tu prends la femme d'autrui en otage. La fille d'autrui. Maintenant, elle ne peut plus bouger parce que si elle dit non, elle va pécher. Non, tu ne pêches pas. Je dis, tu ne pêches. Il n'y a pas d'harcèlement. Pourquoi tu harcèles? Frère, arrêtez d'harceler les sœurs. Sœurs, arrêtez d'harceler les frères. Ne faites pas du pointage. Vous connaissez le pointage, non? Elle là, ça manque. Soyez dans la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux aider quelqu'un? S'attachera à sa femme dans le bonheur comme dans le malheur. Dans la joie, tout comme dans les peines, dans la douleur. Tu dois être là. C'est ça le but du mariage. On ne se détache pas. Oh non, je veux me divorcer parce qu'elle a un sale caractère. Il fallait voir ça avant. Jésus a dit, femme, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Est-ce que l'église est parfaite? L'église a beaucoup de saletés. L'église a beaucoup de défauts, des souillures. Il y a des chrétiens qui font n'importe quoi. Mais Jésus l'aime quand même. C'est un amour sacrificiel. Un amour sans condition. De la même manière, tu dois aimer ta femme avec ses défauts et ses qualités. Même s'il y a des choses que tu n'aimes pas, désolé, tu l'as épousée. Amen. Surtout si c'est moi qui t'ai béni, ne viens pas me voir après. Pasteur, je crois que ce n'est plus la volonté de Dieu. Trop tard. Même si ce n'est plus la volonté de Dieu, deviens un intercesseur. Il y a des mariages qui transforment les uns en adorateurs. D'autres mariages transforment les autres en intercesseurs. Deviens un adorateur, ne sois pas un intercesseur. Oh Seigneur, touche-la. Oh Seigneur, toi qui es parti épouser un païen parce que tu faisais l'évangélisation. Non, j'ai évangélisé ce... Non, le mariage n'est pas l'évangélisation. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Je sens que ce matin, il y a des choses qui se passent. Et les deux deviendront une seule chair. Devenir une seule chair. Il y a deux dimensions dans cette parole. La dimension spirituelle et la dimension physique. Dans la dimension spirituelle, cela signifie que l'homme et la femme ne vont former qu'un seul être. Ils vont comme se fondre ensemble. Devenir une seule chair veut dire que Dieu va utiliser le caractère de la femme pour tailler l'homme. Dieu va utiliser le caractère de l'homme pour tailler la femme. Un lieu de brisement. Pour savoir que tu es humble. Ce n'est pas quand tu es célibataire. C'est tous les célibataires humbles, bravo. Mais entrez dans les mariages. C'est là qu'on saura si vous êtes humble. Parce qu'un jour, elle va tellement te fâcher. Tu vas tellement t'énerver. Merci Jésus pour la femme que tu m'as donnée. Alléluia. Un autre jour, ton nom va tellement t'effacer. Merci Jésus pour le mari que tu m'as donné. Où irais-je loin du mariage? Si je vais en Afrique, je suis marié. Je vais aux Antilles, je suis marié. Où irais-je loin de ton esprit? Alléluia. Il y a des hommes quand ça ne va pas, oh, je vais prendre l'air. Il y a un frère que je connais, lui, il est parti en Angleterre 3 mois. Il est parti prendre l'air 3 mois. Parce que je vous assure, ce n'est pas facile. Hein? Pour ceux qui sont mariés, peuvent attester ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des gens, quand ils sont célibataires, ils veulent rentrer tout de suite. Mais aussi des gens, quand ils sont mariés, ils disent, ah, vraiment petit. Quelqu'un m'a dit, pasteur, il faut dire à ces jeunes-là, ah, s'ils savaient que nous, on cherche à sortir. Et ils cherchent à rentrer. Parce que ce n'est pas toujours comme vous pensez. Parce qu'il y en a qui ont une image du mariage. C'est là, ils voient juste les plaisirs sexuels. Ils voient juste ça, l'aspect physique. Mais ils ne voient pas tous les restes qui va avec. C'est pourquoi des fois, leur critère est erroné. Il y en a qui vont épouser des femmes, non par rapport à leur cœur, mais par rapport à leur apparence. Un frère m'a dit, moi, avant d'épouser, je regarde d'abord les cuisses. Donc toi, tu épouses des cuisses, quoi. La démarche. Oh frère, que Dieu ait pitié de toi. Alléluia. Mais je vous assure. Et c'est comme ça que lorsqu'on plonge dedans, à cause de la beauté physique, après on se rend compte que la véritable beauté, c'est de l'intérieur, du cœur. Et quand dans le cœur, c'est sale, même la beauté physique, tu vas répugner cela. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas vivre avec une carie dans les os. Une femme querelleuse, la Bible dit, c'est une carie dans les dents. Une carie, ça te fait tellement mal. Fais bien ton choix. Amen. Demain, lundi, on parlera sur le choix. Comment faire un bon choix? Et comment avoir des fiançailles épanouies? Aujourd'hui, les fiançailles de certains deviennent le mariage. Ils font des fêtes de fiançailles. Quand tu regardes sur Facebook, c'est le mariage. Et quand ils terminent les fêtes de fiançailles, ils couchent ensemble. Tu es fiancé, tu n'as pas le droit de toucher la femme tant que tu ne l'as pas encore épousée. Je parle aux chrétiens. Et les chrétiens sont des fois encouragés par certains pasteurs qui ne sont pas rigoureux. Frères, sœurs, les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Joseph était fiancé à Marie. Dieu appelait même Marie la femme de Joseph. Mais n'étant pas marié, Joseph ne l'avait jamais connue. C'est pour ça que quand Marie est tombée enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, Joseph a voulu rompre secrètement. Pourquoi? Parce que pendant les temps de fiançailles, on ne se touche pas. Fiancé qui se flirte. Quoi? Arrête! Alléluia. Et j'entends quelqu'un dire ici, mais où est le mal? C'est un péché, ma soeur. Où est le mal? Ça fait quoi? Ça fait que tu pêches. Amen. Vous m'aimez toujours? Vos visages là, est-ce que vous m'aimez toujours? Tout ce mois-ci, je vais vous bombarder sur le mariage. Tout ce mois-ci, c'est la famille. Gauche, droite, devant, derrière. On va revenir sur ça. Jusqu'au séminaire. Alléluia. Dieu va te briser. Dieu va la briser. Et quand il y a le brisement, ça fait mal. On crie, on pleure. Aïe. C'est normal. Dieu est en train de faire un travail de fond. Alléluia. Ils deviendront une seule chair. Dans la pensée de Dieu, 1 plus 1 égale 1. Alors que les gens voient 2, mais Dieu voit 1. Dieu vous voit une seule personne. C'est comme la Trinité ou la divinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a pas trois dieux. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois personnes, mais un seul Dieu. Quand on rentre dans le mariage, on rentre dans un mystère. C'est pourquoi Paul appelle le mariage le mystère. Il dit ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et à l'Église. C'est un mystère. Deuxième dimension de devenir une seule chair, c'est la dimension physique. Le mariage donne accès à l'homme de pouvoir connaître sa femme. En d'autres termes, avoir des rapports intimes. Et vous verrez que dans la Bible, il y a deux mots qui sont utilisés. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir. Quand Dieu parle de l'homme qui connaît sa femme, c'est toujours dans le contexte du mariage. Adam connut sa femme. Ils enfanta Caïn. Mais quand Dieu parle de coucher avec une femme, c'est-à-dire c'est une relation intime, sexuelle, qui est commis en dehors du cadre du mariage. Lisez bien la Bible. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme d'intimité de l'homme vers la femme, de la femme vers l'homme, et qui forme une union, qui forme quelque chose de spirituel, de fort et de grand. Et ça, le diable, c'est ce qu'il veut détruire. C'est pour ça que vous voyez, il fait tout pour détruire la source qui est la famille, qui est le mariage. Il pousse les gens à commettre la fornication, à aller vers la prostitution. Et la Bible dit, celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec la prostituée. Or, si toi tu es là, tu es un homme, tu vas coucher avec 10 femmes. Tu transmets les démons à 10 femmes et tu reçois les démons de 10 femmes. C'est comme ça que ça se passe. Il y a un échange qui se passe dans le domaine spirituel. Il y a des gens comme ça qui n'arrivent pas à rester stables dans le mariage. Il couche avec X, il couche avec Y, il couche et il fait n'importe quoi. Frère, soeur, ça détruit. Ça détruit. Alléluia. L'homme est appelé à connaître sa femme. Et si vous êtes marié, sachez que cet acte conjugal est fondamental pour un mariage uni, un mariage solide, un mariage fort. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Il y a des femmes qui refusent que les maris les touchent. Pendant 3 mois, 5 mois, tu le pousses à devenir adultère. Oh non, je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible. Et tu dors avec les djinns. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et là, ils font semblant, c'est comme s'ils comprennent. Ben, vous voulez être trop spirituel, c'est tabou. Ce n'est pas tabou. Parce que quand on le dit pas à l'église, on fait n'importe quoi dehors. Ces choses doivent être enseignées dans l'église pour que le peuple soit enseigné. Alléluia. Le mariage. Et là, ton voisin dit, lui, le mariage. Mais je peux rassurer à tout le monde que le mariage, c'est bon. Si tu n'es pas marié, prie que Dieu te donne ta cote, ton mari ou ta femme. Amen. Amen. Mais ne sois pas non plus pressé. Si tu fais des études, tu es à l'école, termine d'abord les études. Et un travail. Le mariage, ce n'est pas pour des garçons et des filles. C'est pour des hommes et des femmes. Il y a une différence entre être garçon et être un homme. Il y a une différence entre une fille et être une femme. Et beaucoup aujourd'hui veulent se marier, ce sont des gamines qui sont incapables de tenir la maison, incapables de faire la cuisine, incapable de faire le ménage à la maison, incapable de se réveiller tôt, des jeunes filles qui se lèvent à midi. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire de ton époux, de ta famille? Frères et sœurs, amen. Le lien du mariage. Quand on rentre dans ce lien, plus un homme connaît sa femme, plus le lien se resserre, plus le lien, je dirais, se solidifie. Alléluia. Alors, les liens du mariage, vous devez noter, sont indissolubles, indestructibles. On ne peut pas détruire les liens du mariage. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, la Bible dit ceci. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2. Amen. La seule chose qui peut rompre le lien du mariage, c'est la mort. Et pas une mort précipitée, la mort naturelle. Quand l'homme meurt ou la femme meurt, il n'y a plus de mariage. L'homme et la femme qui restent veuves ou veuves a le droit de épouser et se marier, se remarier s'il le souhaite. Ce n'est pas non plus une obligation. Elle peut désirer rester veuve ou veuf, mais s'il veut se remarier, il peut le faire. Mais en dehors de cela, Dieu n'autorise pas. Et le dimanche prochain, je nous parlerai sur le divorce et le remariage. Quelle est la position de la parole de Dieu à propos? Amen. Amen, amen. Alors, notez ceci. Quelques fondements pour un mariage selon Dieu. Parce que nous parlons du mariage selon Dieu. Le modèle de mariage selon Dieu. Pour qu'un mariage réussisse et qu'un mariage dure, il faut considérer ces critères. Premièrement, les époux doivent partager la même foi en Jésus-Christ. Si vous voulez vous marier, rassurez-vous que vous avez la même foi. N'allez pas épouser les inconvertis, les païens. Vous allez vous mettre sous un joug étranger. Amen. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que vous devez savoir, les époux doivent partager les mêmes valeurs. L'homme et la femme doivent avoir les mêmes valeurs pour constituer un mariage. Quand l'homme pense, quand l'homme est à l'est, la femme est à l'ouest, ça sera toujours des tensions, des difficultés, et on ne va pas s'accorder. Et troisièmement, il faut également qu'ils puissent avoir les mêmes objectifs, la même vision. Alléluia. Et quand on est dans ce cadre-là, facilement la main de Dieu peut se poser sur le mariage. Sachez que le mariage en lui-même est une bénédiction. Autre chose, autre critère qui est très important que vous devez savoir, les époux doivent être soumis à Dieu. Quand l'homme est soumis à Dieu, que la femme ne l'est pas, ce sera des conflits. Et quand l'inverse aussi est constaté, il y aura également des conflits. Ils doivent tous les deux être soumis à Dieu. Autre critère, les époux doivent s'aimer mutuellement. Un amour sacrificiel. Et je précise que l'amour qui doit régner dans le couple, ce n'est pas le coup de foudre. Car il y a des gens qui se marient par coup de foudre. Tu l'as vu, un mois après, tu l'épouses déjà. Un mois. C'est un problème. Le coup de foudre est passager. L'amour demeure. Alléluia. Autre point. Les époux se doivent mutuellement la confiance. Lorsqu'il y a la confiance, on peut parler du mariage. Or, il y a beaucoup de mariages où l'homme n'a plus confiance à la femme n'a plus confiance en l'homme, et là, il n'y a plus mariage. C'est que de façade. On montre une image, on donne l'impression qu'on est ensemble, mais en réalité, on ne l'est pas. Car lorsqu'on parle du mariage, il faut qu'il y ait confiance mutuelle. Amen. Les époux se doivent également fidélité. Ça, c'est un fondement du mariage important. Quand tu épouses un homme, tu dois lui rester fidèle. Où que tu sois, où que tu ailles, tu dois rester fidèle à ta femme, fidèle à ton mari. Que des familles aujourd'hui, des couples où, quand l'homme voyage, oulala, il devient le mari de tout le monde. Il quitte la France, il va dans un pays, il s'attrape des nanas, il fait n'importe quoi. Il viole le contexte ou le cadre du mariage. Il faut la fidélité. à la femme de ta jeunesse, à la femme que tu as dit oui, je t'ai choisi et je veux t'épouser. Ça, c'est ce que la Bible nous demande. Car celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Amen. Autre point, autre critère qui est important. Les époux doivent vivre dans l'humilité. Vous voulez que votre mariage soit fondé, soit selon le modèle de Dieu? Il faut qu'il y ait l'humilité. La capacité de pouvoir se rabaisser soi-même. Quand l'homme est en colère, la femme aussi veut monter. Ça sera la bagarre. Il y a des mariages qui sont transformés en ring de boxe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'humilité. Chacun cherche son intérêt. Chacun veut avoir raison. Dans le mariage, on ne cherche pas son intérêt. Dans le mariage, on cherche l'intérêt de la famille. Et l'intérêt de Dieu. Alléluia. L'humilité. Est-ce que ton mari est humble? Est-ce que ta femme est humble? Vous devez être humble. Car c'est l'humilité qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout. Pourquoi les mariages se cassent? Parce qu'il n'y a pas l'humilité. Ça, c'est un des problèmes aussi. Alléluia. Philippiens chapitre 2, verset 3 à 4. Et vous lirez aussi Colossiens chapitre 3, verset 8 à 22. Colossiens 3, verset 8 à 22. La Bible parle du fait de supporter, de se supporter et de se pardonner réciproquement dans le mariage. Une preuve d'humilité qu'il doit avoir, c'est que tu dois être capable de demander pardon à ta femme ou à ton mari. Est-ce que les femmes demandent-elles pardon à leur mari quand elles ont tort? Est-ce que les maris demandent-ils pardon à leur femme quand ils ont tort? S'il n'y a pas ça, si ton mari ne t'a jamais demandé pardon, c'est qu'il est orgueilleux. Où il a tort, bien sûr. Alléluia. Et l'inverse, c'est pareil. Non seulement demander pardon, mais apprendre aussi à pardonner. Il y a des gens qui sont tellement rancunières et qui détruisent leur couple par la suite. Pourquoi? À cause de la rancune. Alléluia. L'humilité veut que tu ne sois pas rancunière. Sache libérer le pardon. Sache pardonner. Un autre critère. Pour qu'un mariage soit heureux, il faut la transparence. Dis avec moi la transparence. Genèse 2, 25, la Bible dit, l'homme et la femme étaient tous les deux nus. Le mot nu, là, veut dire transparent. Je vois ta nudité, tu vois ma nudité, et ils n'en avaient point honte. Que des hommes qui cachent les choses à leurs femmes. Que des femmes qui cachent des choses à leurs maris. Il a des projets, sa mari ne sait pas. Il a des projets, sa femme ne sait pas. Il envoie l'argent au pays, il casse le couple et ensuite il dit le diable m'a détruit. Non, ce n'est pas le diable, c'est un manque de transparence. Alléluia. Soyez transparents. Dites les choses. Dites la vérité. Même si c'est dur, dites-le. Dites-la plutôt. Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un est béni ce matin? La transparence est une clé pour réussir le mariage. Il y a des gens qui se marient, ils cachent leur vie passée. Tu as été malade ou tu as atteint d'une maladie, tu ne l'avoues pas à ton mari. Et le jour, il va la prendre dans le mariage. Ça ne peut pas aller. Quand tu veux t'unir avec un homme et une femme, tu dois demander son CV. Et il doit te donner ce qu'il a fait. Avec combien de hommes il est sorti. Tu dois savoir. Parce qu'un jour, vous allez sortir ensemble. On va appeler ta. On ne sait pas que ta femme est mariée. On va, oh, pss, pss, pss. Oh. Et le mari va. Oh. Tu le connais? Et ça va être quoi? Source de problèmes. Et quand tu veux te marier, même si tu as eu 10 hommes, dis bon, j'ai eu 10 hommes. Cite leur nom. J'ai eu Jean-Pierre, j'ai eu Oscar, j'ai eu Gaylor, j'ai eu. Amen. Comme ça, il sait. Le jour qu'il va apprendre qu'il y a un Gaylor, il sait déjà, il va te défendre. Mais tu n'as jamais dit que Gaylor était dans ta vie. Et un jour, avec Facebook, il rencontre Gaylor. Ou Gaylor t'envoie un petit message. Oh, ma tendre chérie d'amour. Oh, toi, tu as quelqu'un qui t'appelle mon bébé? Comme il y a des frères ici, leur femme les appelle bébé. Bébé, ça va? Bébé Junior, ça va? Et tu vois une autre femme qui t'appelle bébé? Je pense pas que Karine sera contente. On est d'accord? Amen. Vous voulez faire les spirituels? Il y en a ici, là. Vous êtes là. Vous êtes bébé. My baby. Mon cœur. Mon chouchou. Ma poule. Il y en a qui avaient ma poule. Oh, ta poule.
On va te cuire poulet boucané. Alléluia. Est-ce que ça va jusque là? Est-ce que ça va jusque là? Est-ce que tu es béni? Si tu es béni, acclame Dieu. Gloire à Dieu. Ne cachez rien. Dites la vérité. Dites les choses. Amen. Et un autre point important que j'aimerais citer également. Pour qu'un mariage soit heureux, solide, il faut d'abord se mettre en accord. Mettez-vous en accord avant de vous marier. Et par là, je veux dire quoi? Évitez le mariage, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, le mariage par procuration. Tu as connu quelqu'un depuis longtemps, tout ça, une relation à distance. Après, tu acceptes le mariage. Très souvent, il y a des choses cachées. Et ça se solde très mal. Évitez d'aller sur des sites de rencontres. Mythique.com. Quel autre site encore? Il y en a. Aidez-moi les célibataires. Quel autre site? Oh, vous êtes trop spirituel. Vous connaissez ça? Il y a Mythique, il y a quoi encore? Ah? Badou. Merci. N'allez pas là-bas. Où tu regardes le profil, tu regardes un peu la beauté, tu regardes un peu ceci. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu le connais? On s'est rencontré où? On s'est rencontré sur Facebook. J'ai connu un cas comme ça, une soeur. Elle vient me présenter ici à 3 ans. Elle vit ici, elle a rencontré quelqu'un par les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. L'amour en ligne, relation en ligne. Elle aussi courageuse, après 3 mois seulement, pas longtemps. Déjà tous les mois, elle envoie l'argent. Tu viens après de connaître la personne. En plus, elle a la fille et tous les mois, tu l'envoies. 200 euros, 300 euros. C'est beaucoup là-bas. Et puis après, toi-même, tu payes ton billet. Toi-même, tu achètes la dot. C'est l'homme qui doit te doter, mais toi, tu te fais doter. Oh, 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 oh. Et même le soeur. Tu te fais doter. C'est normal qu'après le mari te dise, mais écoute, c'est toi-même qui as payé la dot, c'est pas moi. Et en plus, tu fais les démarches. Regroupement familial. Tu te bats. Et le gars, il vient. 2 mois après, il dit non. Tu n'es pas la femme de ma vie. Et puis tu viens, pasteur, tu vois, tu comprends. J'ai dit, mais ma soeur, qu'est-ce que je t'avais dit? Ah, mais tu comprends, je l'aimais. Ah bon? Relation à distance. Par procuration. Ne le faites pas. Amen. Amen, amen. Ceux qui m'entendent par les médias, ne le faites pas. Après, on est là, pasteur, moi j'ai vraiment un démon dans ma vie. Ce n'est pas un démon, tu es pressé et tu n'écoutes pas les conseils. Quand tu veux te marier, viens voir ton pasteur. Explique-lui la chose. Il y a des gens qui viennent faire les choses en cassette. Et quand ça ne marche pas, c'est là maintenant qu'il vient. Pasteur, prie pour moi, je ne prie pas pour toi. Quand tu as commencé, j'étais là. Alléluia. Il faut savoir discipliner aussi les chrétiens. Amen. Surtout ici en France, on voit des choses terrible, grave. Parce que les soeurs, quand elles commencent à avoir 35 ans, aïe, 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 38 ans, 40 ans, là, ils n'écoutent plus. Quand tu dis, calme. Elle dit, non, parce que tu comprends. Elle te dit, mais tu sais, j'ai déjà 38 ans. Je veux dire à une femme ici, ton âge n'est pas un frein. Qui t'a dit que tu seras ménopausée? Dieu est capable de mettre une pause à la ménopause. Est-ce que tu m'entends? La précipitation fait que tu prends n'importe qui. Après, tu es déçu. Et puis, quand tu es marié, tu ne peux plus divorcer. Même si tu as commis une erreur dans le mariage, dans le choix, tu restes dedans. C'est pourquoi prends le temps. Amen. Le mariage, ce n'est pas la fête de mariage. Aujourd'hui, avec Facebook, merci Seigneur pour tous les sites là. Oh, quand je vois les mariages de mes fils ici, quand ils ont pris des professionnels, mais c'est beauté. Ruben, Juju et les autres, Kader. C'est tellement joli, c'est tellement beau. Maintenant, quand tu vois ça, tu dis, oh vraiment, et c'est bien, hein? Moi aussi mon tour. Non, ne te marie pas parce que l'autre s'est marié. Marie-toi parce que tu as trouvé la bonne personne. Est-ce que je peux répéter? Marie-toi parce que tu trouves une bonne personne. Tu vas aller trop vite.
Parce que tu as dit, bon, moi cette année, si le mariage ne vient pas, j'abandonne la foi.
Non.
Quelqu'un m'a fait ça comme ultimatum. Si cette année-ci, il ne vient pas, moi, je quitte l'église. Et en effet, elle ne vient plus. Cette personne ne vient plus. Elle a quitté. Est-ce que c'est moi qui fais le mariage? Non, attendez, attendez. Est-ce que c'est le pasteur? Vous voulez le faux pasteur? Quand il dit, bon, Dieu me montre mon frère. Je sens la soeur là. Non, ce n'est pas comme ça. Je ne te donnerai jamais une prophétie concernant ton mariage. Pourquoi? Parce que le jour ça n'ira pas, tu diras, de toute façon, moi je ne voulais pas, c'est le pasteur. Tu dois te marier parce que tu es convaincu. Même Dieu n'oblige pas un homme. Écoutez, même si Dieu te donne une vision, tu as le droit de dire non. Parce que depuis que Dieu a donné à Ève, à Adam, et que ça a échoué, Dieu dit, maintenant je me lave les mains. L'homme doit chercher lui-même. C'est pour dire celui qui trouve une femme. Donc tu as cherché pour trouver. Trouve le bonheur. Même Dieu se garde, se réserve. Il dit, parce que quand j'ai demandé pourquoi tu as fait ça, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Donc ce n'est pas moi, c'est toi le responsable. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es responsable de tes choix. Dis-lui. Non, aide-moi à lui dire encore bien en face. Dis-lui, tu es responsable de tes choix. Alléluia. Ça va jusque-là? Est-ce que ça va jusque-là? Je finis par ceci. Le but du mariage, deux buts principaux pour lesquels Dieu a institué le mariage. Dans Proverbes chapitre 16, verset 4, la Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Il n'a rien fait au hasard. Même le mariage a un but. La pensée de Dieu, dans la pensée de Dieu, le premier but du mariage, c'est pour que les maris soient heureux. C'est-à-dire, le conjoint soit heureux et rende l'autre heureux. Donc, quand tu rentres dans les mariages, tu dois d'abord chercher à rendre l'autre heureux et ensuite à être heureux ou heureuse. Amen. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pareil, celle qui trouve un homme trouve le bonheur. L'homme, selon le cœur de Dieu. Amen. Qui ne va pas t'écraser, mais qui va être ton soutien, qui va t'encourager, t'élever, t'honorer, te propulser, t'emmener encore aller plus loin. Alléluia. Alléluia. C'est pour le bien-être, c'est pour le bonheur, tant sur le plan psychologique, psychique, sur le plan spirituel, physique, moral, financier, matériel, dans tous les domaines, les grâces et les bénédictions découlent du mariage. Même quand on n'est pas chrétien, lorsqu'on se marie, on honore Dieu. Et il y a une bénédiction qui s'attache parce qu'on honore Dieu. Alléluia. Deuxième raison pour laquelle nous devons nous marier, pour laquelle Dieu a institué le mariage, c'est pour la multiplication, pour conserver la race humaine. On ne se marie pas d'abord pour avoir des enfants. Il y a des familles où, lorsque tu t'es marié, un an après, il n'y a rien, tu commences à avoir la pression de la famille. Frères, sœurs, vous devez refuser ces choses. On ne se marie pas d'abord pour avoir des enfants. On se marie pour être heureux, pour accomplir la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Et les enfants sont le don de Dieu que Dieu peut vous donner en son temps. Alléluia. Ça va? Est-ce que ça va jusque-là? Donc ne sois pas frustré parce que tu n'as pas encore enfanté. Tu n'es pas encore tombé enceinte. Non, ce n'est pas d'abord le premier but. Mais c'est quand même un objectif parce qu'il ne peut pas avoir, on ne peut pas remplir la terre sans le mariage. Vous comprenez? Ce n'est pas possible. Donc, Dieu a dit dans Genèse 1, 28, multiplier. Le but, c'est aussi remplir la terre. Amen. Remplir la terre. Remplissez la France. Remplissez l'Afrique. Remplissez le monde. Remplissez la terre. Ça, c'était l'ordre de Dieu. Amen. Alors, pour remplir la terre, bien évidemment, il faut un acte conjugal. Et commettre l'acte conjugal en dehors du cadre du mariage, frère, sœur, c'est un péché que la Bible appelle la fornication ou encore l'impudicité. Amen. Donc, si vous êtes là, enfant de Dieu, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas l'autorisation de Dieu de pouvoir vous unir avec un homme ou une femme sans que vous l'ayez épousé, sans que vous soyez rentré dans le cadre du mariage. Autrement, vous vivez dans la pudicité et les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Et lorsque vous êtes marié, si vous avez une relation conjugale extra, le mariage, le cadre du mariage, c'est ce que la Bible appelle l'adultère. Vous connaissez ces choses. On parle d'un adultère lorsque un des conjoints quitte le cercle du mariage pour aller avoir des relations en dehors du cadre du mariage. Et vous avez beaucoup de cas comme ça, où on a des enfants à gauche, à droite, parce qu'on est sorti du cadre du mariage et devant Dieu, c'est un péché. Hébreux chapitre 13, verset 4, dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, parce que Dieu jugera les débauchés et les adultères. Dieu va juger les adultères, ceux-là qui sortent du cadre du mariage, et Dieu va juger les débauchés. Alors sachez que même le lit conjugal doit être pur, doit être saint devant Dieu. Alléluia. Tu n'as pas le droit de pratiquer des pratiques sexuelles païennes. Il y a beaucoup de chrétiens qui pratiquent des choses qui sont dans le monde et qui l'introduisent parce qu'ils les copient ou par la pornographie. En tant que couple chrétien, vous n'avez pas le droit de regarder la nudité d'une autre personne autre que votre épouse. La pornographie n'est pas autorisée, même dans le cadre du mariage. C'est le péché. Alléluia. Car derrière sa pornographie, il y a des esprits, il y a des démons. Vous ouvrez des portes aux maris de nuit, aux femmes de nuit, aux esprits de séduction et également à l'adultère et à la débauche. Et aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante dans les écoles, dans la société, au travail. On ne parle que de la pornographie. Frères et sœurs, vous devez fuir ces choses. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est en dehors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alléluia. Alléluia. Le mariage doit être saint. La sainteté convient dans la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Ton couple, ton mariage doit être pur et saint pour honorer Dieu. Amen. Amen. Que le mariage soit honoré de tous. Qui sont ceux qui doivent être honorés? Les parents doivent être honorés. Ne vous mariez pas sans le désaccord. Avec le désaccord des parents. Vous, les parents, doivent donner l'accord pour le mariage. 1 Corinthiens 7 nous dit, c'est l'homme qui marie sa fille. C'est les parents. Avant de valider un mariage, il faut que les parents donnent leur accord. Alléluia. Il y a des pays où quand le parent donne l'accord, il n'y a pas la mairie, il n'y a pas toutes ces choses. Le mariage peut être consommé. Mais si vous êtes dans un pays comme la France, ou d'autres pays où il y a quand même certaines règles, pour être reconnu comme étant un couple marié, vous avez besoin de passer par la mairie. Vous devez vous soumettre également à l'autorité civile. Alléluia. Romains chapitre 13, que toute personne soit soumise aux autorités civiles, supérieures. Car toute autorité vient de Dieu, nous dit la Bible. Cependant, il peut y arriver que vous voulez vous régulariser au niveau de l'État et que votre situation ne le permet pas. Alors la loi de Dieu prime. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Il se peut que vous voulez vous régulariser. Et vous allez à la mairie, on vous dit que ce n'est pas possible. Alors que vous voulez être en règle. Mais la mairie ne veut pas. Ou votre ambassade ne veut pas vous délivrer un papier. Mais devant Dieu, sans vous passer devant la famille, vous êtes en règle. Parce que Dieu n'a pas parlé de la mairie dans Genèse 2. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Alléluia. Je suis en train d'établir les choses par rapport au mariage. Pourquoi je le dis? Parce qu'il n'y a pas les mêmes lois dans tous les pays. Et la loi à laquelle nous sommes soumis, c'est la loi de Dieu. La Bible dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Cependant, regardez ce que j'ai remarqué aussi. J'ai remarqué que beaucoup de personnes souffrent dans le cadre du mariage. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire la dot au mois de janvier, faire la mairie au mois de mai et faire la fête au mois de décembre. Mais tu vas brûler. Regarde ton voisin, dis-lui tu vas brûler. Dis-lui tu vas brûler. Je donne un conseil, faites tout en même temps. Amen. Amen, amen, amen. Faites tout en même temps. Si vous pouvez tout faire dans la même semaine, pourquoi pas, pour que la bénédiction de Dieu reste sur vous. Alléluia. Un homme et une femme est sorti des parents. Vous êtes sorti de votre père. vous êtes sorti de votre mère. Et dans l'ordre de Dieu, vous dépendez de vos parents. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Vous dépendez de vos parents. Si les parents ne sont pas d'accord, nous, l'église, on ne peut pas prier pour vous. On ne peut pas le faire. Et le jour du mariage, excusez-moi, ce n'est pas la grande fête. Il y en a qui n'arrivent pas à se marier parce qu'ils arrivent, ils attendent de réunir beaucoup d'argent pour faire une grande fête. Qui vous a dit ça? Vous pouvez faire la dot le samedi et le dimanche comme ça, on prie pour vous. Quelqu'un peut me dire amen? Venez dans la semaine, vous allez me poser toutes vos questions. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. La Bible dit, parents, enfants, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est ton papa, ta maman, s'ils sont encore en vie, qui doivent libérer la bénédiction pour ta vie. Dis, mon fils, ma fille, je te bénis. Et c'est cette bénédiction qui s'attache à ta vie. Si dans votre famille, vous êtes rebelle, orgueilleux, orgueilleuse, contre vos parents et que vos parents vous maudissent, ce n'est pas un pasteur qui va enlever cette malédiction. Ce n'est pas un pasteur qui vous a porté pendant 9 mois. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pour cela que vous devez honorer les parents. Nous devons honorer les parents et rétablir les choses d'après la pensée de Dieu, d'après la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.